comme ça. Et que le Christ agit à travers le prêtre. Le prêtre agit in persona Christi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui agit à travers lui. Après donc cette préparation au sacrifice, le prêtre monte vers l'autel, prépare l'autel éventuellement, puis fait les prières au bas de l'autel où il se prépare à célébrer la messe proprement dite. Dans le psaume 25, il proteste de son désir, de sa joie de célébrer la messe, ainsi que de son indignité. Puis il confesse ses péchés, demande pardon à Dieu, implore le pardon. Les ministres, les servants de messe et les fidèles protestent ensuite qu'ils sont indignes, qu'ils sont pécheurs et demandent le pardon de Dieu. Et le prêtre conclut en donnant l'indulgence. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum. Que notre Seigneur vous donne le pardon, vous remette vos péchés. On voit déjà ici une claire distinction entre la place du prêtre et la place des fidèles. Avant de monter à l'autel, le prêtre demande à Dieu que Dieu se montre miséricordieux afin de nous accorder le salut, car la messe a une valeur salvifique. Et le prêtre monte à l'autel en invoquant l'intercession des saints. C'est ainsi que le prêtre se prépare à célébrer la messe, qui commence, à proprement parler, par le chant d'entrée. À l'origine, ce chant d'entrée était simple, chanté pendant que le prêtre entrait en procession. Aujourd'hui, on le chante pendant les prières au bas de l'autel. C'est la raison pour laquelle, à la messe chantée, pendant le chant d'entrée, eh bien, on reste debout, puisque c'était cela, ce chant qui accompagnait l'entrée du prêtre. Donc, il est normal qu'on se mette debout, comme on le fait maintenant, à la messe basse. À la messe basse, comme le prêtre le lit simplement après les prières au bas de l'autel, eh bien, on se met à genoux pour les prières au bas de l'autel, que l'on dit avec le célébrant. Le Kyrie, on implore la miséricorde de Dieu, c'est un reste des litanies qu'il y avait là. Le Gloria, après avoir imploré la miséricorde, on rend grâce à Dieu, on le loue. C'est un hymne qui s'adresse à toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la collecte, on demande à Dieu les grâces divines, notamment pour pouvoir écouter avec fruit la parole de Dieu. Les lectures, c'est l'enseignement sur notre Seigneur, les épîtres, et l'enseignement de notre Seigneur, les évangiles. Le graduel, l'Alléluia ou le trait, ont pour mission d'éclairer, de mettre en lumière l'aspect essentiel de ces textes pour la liturgie du jour. Quant à l'homélie, le sermon, il n'appartient pas à la liturgie. D'ailleurs, à certaines époques, il était placé à d'autres endroits, soit avant la messe, soit même pendant l'après-midi. S'il est placé là, c'est pour des raisons pratiques, parce que les gens sont obligés de rester. Après, bien l'offertoire, le credo, confession de la foi, l'offertoire, et à travers l'offrande du pain et du vin, c'est le Christ lui-même qui est par avance offert au Père. Le prêtre offre l'hostie en son nom propre, cette hostie qui sera le Christ immolé pour nos péchés. Il met ensuite le vin, puis la goutte d'eau dans le calice, et cette goutte d'eau symbolise l'union de tous les fidèles au Christ, l'union de nos actions, de nos œuvres, à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis le prêtre offre le calice au nom de tous. C'est la prière, offerimus tibi, nous vous offrons. On est passé du je pour l'offrande du pain au nous. Parce que là, il le dit au nom des fidèles qui se sont unis à l'offrande. Et cette offrande est faite pour honorer Dieu et pour notre salut. Suit l'offrande que les fidèles font d'eux-mêmes. C'est la prière in spiritu humilitatis. Ils offrent les affections de leurs âmes, affections d'humilité et de contrition. On y reconnaît la majesté de Dieu, notre qualité de pécheur et de créature. Puis on invoque l'Esprit Saint, Veni Sanctificator, afin que le Saint-Esprit unisse en une seule victime tous ces éléments, donc le pain et le vin, donc le Christ qui s'offre, nous-mêmes, de façon à ne former plus qu'un, à former le Christ au total, donc le corps mystique du Christ avec le Christ à la tête, nous comme ses membres, qui s'offriront en victime. Donc Jésus-Christ s'offrira, et nous avec, au cours de la messe. Après donc cette union de la victime, cette préparation de la victime, eh bien, vient l'encensement des oblats, et on encense naturellement l'hostie, le calice, le célébrant, les ministres et les fidèles. Car ce qui s'offre, c'est le Christ, l'ensemble de l'Église qui s'offre. en Jésus-Christ, sous Jésus-Christ. Vient ensuite le lavabo, le prêtre se purifie les mains en demandant à Dieu de le purifier, afin qu'il puisse offrir dignement le sacrifice. Le prêtre doit se purifier davantage car il a un rôle plus important. C'est lui qui réalisera le sacrifice proprement dit par les paroles de la consécration. Maintenant que la victime est prête à être offerte, eh bien on l'offre à la très sainte Trinité. C'est le Suscipe Sancta Trinitas qui bien achève l'offertoire. La conclusion de l'offertoire, c'est l'orate fratres, où le prêtre demande que le sacrifice soit agréé de Dieu. Et les fidèles répondent que ce sacrifice est offert par les mains du prêtre. La victime est maintenant prête pour l'immolation. La secrète, on demande à Dieu qu'il accueille favorablement le don qui lui est fait, afin que par sa grâce, nous soyons une hostie agréable. Nos péchés, nos manquements n'empêchent pas la réalisation, n'empêchent pas l'offrande d'être agréable à Dieu. Puis vient la préface qui prépare le canon et qui est une prière de louange à la très sainte Trinité, notamment avec le triple Sanctus. Suit le canon de la messe. Avant la consécration, eh bien, le prêtre prie au nom des fidèles pour toute l'Église. Il utilise la première personne du pluriel. Tout d'abord pour l'Église catholique et sa hiérarchie dans le Te Igitur, dans le Memento des vivants, pour les fidèles vivants, notamment ceux qui assistent à la messe ou ceux pour qui la messe est offerte. Le Communicantes, eh bien le prêtre recourt à l'intercession des saints pour pouvoir faire cette offrande dignement et recevoir les fruits. Et l'Anquigitur, eh bien, on indique que ce sacrifice est offert pour tous les membres de l'Église militante. Et on demande la paix, c'est-à-dire la grâce de Dieu, être en paix avec Dieu, ne pas avoir de péché mortel qui nous sépare de Dieu, qui nous fait ennemis de Dieu. On demande d'échapper à la damnation et on demande aussi le salut éternel. Après cela vient la consécration proprement dite. Et le prêtre, en faisant les signes de croix prescrits, indique que le pain va devenir le corps du Christ et que le vin va devenir le sang du Christ. Le signe de croix ici a une importance, puisqu'il indique que c'est précisément cela, ce pain et ce vin, qui se deviendront le corps et le sang du Christ. Pour la consécration du pain, on commence par le récit de l'institution à voix basse, et le prêtre refait les gestes de notre Seigneur. Puis, après cela, eh bien, il y a une coupure, et le prêtre, sur un autre ton, en se tenant penché sur l'autel, eh bien, prononce les paroles efficaces, les paroles sacramentelles, sur un ton intimatif. Il donne un ordre. Et c'est ainsi que se réalise la transsubstantiation, qui est présent le corps du Christ. Et après cela, eh bien, il adore immédiatement notre Seigneur, présent sous les apparences du pain, par une génuflexion, le fait adorer par les fidèles, l'élévation, et fait à nouveau une génuflexion. Pour la consécration du vin, on reprend le récit de la scène du jeudi saint. Les paroles consécratoires, elles, sont à nouveau séparées, dites sur un ton différent, qui sont efficaces, et on indique bien dans ces paroles de la consécration qu'il s'agit du sang de l'alliance, donc de la nouvelle alliance avec Dieu, et que ce sang est versé en rémission des péchés. Donc le sacrifice de la messe qui se réalise là est en rémission des péchés. Et il conclut par les paroles « Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Ce sont les paroles de notre Seigneur. Donc, chaque fois que vous ferez cela, c'est-à-dire que vous renouvellerez ce sacrifice, que vous rendrez présent le corps et le sang de Jésus-Christ. Sacrifice qui se réalise par la séparation, eh bien, du corps et du sang, un état de mort mystique. Et cela rend présent l'unique sacrifice de la croix. Après la consécration, eh bien, le prêtre va demander que les fruits du sacrifice descendent sur les fidèles. C'est d'abord la prière « Unde et memores ». Le prêtre et avec lui le peuple saint, donc tous les fidèles, l'Église, offre à Dieu la victime qui vient d'être immolée sacramentellement. Et ce rite qui vient d'avoir lieu renouvelle la passion du Christ, sa mort sur la croix. Mais il rappelle aussi la résurrection et l'ascension du Christ, car le Christ est présent c'est, sous apparence du pain, c'est le corps du Christ. Mais comme aujourd'hui le Christ est vivant, est monté au ciel, eh bien, avec ce corps, il y a le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Donc cela rappelle aussi cette résurrection et cette ascension. La prière supraque, où le prêtre eh bien, demande à Dieu d'agréer cette offrande, comme il avait agréé l'offrande faite par Melchisédek et diverses offrandes de l'Ancien Testament. Ces offrandes avaient comme caractéristique d'annoncer le sacrifice de la messe. Supplices et rogamus, eh bien, on demande que l'offrande soit portée par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ le Saint-Ange, devant Dieu, afin que de Dieu redescendent sur nous les grâces et les bénédictions. Memento des morts, on demande le fruit du sacrifice pour les morts, c'est-à-dire la remise de leur peine, et bien sûr d'entrer dans la gloire du ciel. Et enfin, le nobis quoque peccatoribus, où on demande ses grâces aussi pour nous-mêmes, demande d'aller au ciel, et la persévérance jusqu'au bout. Dans la conclusion du canon, per ipsum et cum ipso, eh bien, on rappelle que tout nous a été donné par Jésus-Christ, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel, et que nous rendons tout à Dieu, et nous rendons gloire à Dieu et à la Trinité par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce rôle de médiateur de Jésus-Christ, de notre Seigneur, qui conclut le canon. Et c'est ce qui s'est réalisé dans le canon. Jésus-Christ s'est donné à nous, et par lui, nous rendons à Dieu l'hommage qui lui est dû. Le rite de communion, eh bien, tout d'abord le pater, qui récapitule toutes les demandes que nous devons faire, et qui est développé par la suite, notamment dans le Liberanos, où on demande la paix avec Dieu, être libéré du péché, afin d'être dans l'amitié de Dieu. Et cette paix s'obtient par le corps et le sang de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Dans la Agnus Dei, on rappelle que la paix nous a été donnée par l'agneau de Dieu, et qui nous l'a donnée en nous enlevant le péché. Les prières du prêtre avant la communion, tout d'abord il demande cette paix pour l'Église, paix entre les membres, c'est là qu'a lieu le baiser de paix, un messe solennel, entre les membres du clergé. Puis il demande d'être délivré du péché et du mal par le corps et le sang de Jésus-Christ. Et enfin, il affirme que la communion est un remède. Le prêtre communie en rappelant, et avant de communier dans la prière rappelle que cette communion nous garde pour la vie éternelle, c'est-à-dire elle nous unit à Dieu par la grâce et la charité, qui sont déjà le commencement d'éternité bienheureuse. Puis la communion des fidèles distingue celle du prêtre. Les ablutions, on leur rappelle que la communion est un remède. Et les rites de conclusion de la messe, lite missa est, le renvoi des fidèles, le placet tibi sancta trinitas. Le prêtre demande en nom pour son nom propre que malgré son indignité, eh bien, ce sacrifice soit agréable à Dieu, que ça ne soit pas un obstacle à ce que les fidèles puissent recueillir les fruits de la messe. Vient la bénédiction et le dernier évangile qui est une prière d'action de grâce qui rappelle l'action salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment définir la messe après tout ce que l'on a vu? Eh bien, voyons quels sont les buts de la messe qui apparaissent dans ces rites. Il y a tout d'abord l'adoration rendue à la très sainte Trinité. L'adoration est le premier devoir de la créature raisonnable. Parce que nous sommes créatures, nous devons reconnaître que le Créateur nous a tout donné et qu'il est notre souverain maître. C'est cela l'adoration. Et l'acte propre de l'adoration, c'est le sacrifice. Le sacrifice, de manière générale, peut se définir ainsi. Un sacrifice, c'est offrir à Dieu une chose sensible et la détruire en quelque manière pour reconnaître son souverain domaine sur nous et sur toute chose. Voilà pourquoi le sacrifice est un acte d'adoration. On reconnaît le souverain domaine de Dieu. Et pour ce motif, il ne peut être offert qu'à Dieu seul. Quand on dit la messe de la Sainte Vierge ou d'un autre saint, on le dit en leur honneur. Mais le sacrifice est proprement offert à Dieu et à Dieu seul. Et cette adoration de notre Seigneur, de la très sainte Trinité, se retrouve en plusieurs lieux dans la messe. Dans le Gloria notamment, dans la conclusion de l'offertoire, Suscipe Sancta Trinitas, à la conclusion de la messe aussi, le Placet Tibi Sancta Trinitas, tout à la fin. Agré Trinité Sainte, l'hommage de votre serviteur, le sacrifice que, malgré mon inanité, j'ai présenté au regard de votre majesté, rendez-le digne de vous plaire et capable d'attirer votre faveur sur moi-même et sur tous ceux pour qui je l'ai offert. Donc on voit bien, c'est un sacrifice d'adoration. Et cette messe est réellement un sacrifice qui s'est réalisé dans la double consécration, où le Christ a renouvelé l'immolation du calvaire. Sur la croix, le Vendredi Saint, c'est le Christ qui a été détruit de manière sanglante. À l'autel, le Christ est immolé d'une manière non sanglante. C'est l'unique sacrifice de la croix qui est rendu présent, renouvelé, par la séparation sacramentelle du corps et du sang de Jésus-Christ. Et bien, cette première fin, l'adoration, on dit aussi le culte de l'atrie ou la fin latretique. Le deuxième but de la messe est un but eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâce. Après avoir reconnu le souverain domaine de Dieu, il faut le remercier de tous ses bienfaits. Cet aspect-là est très net dans la préface, où on commence par dire « Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, que toujours et partout nous vous rendions grâce, Seigneur, Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. » Et cette préface introduit le canon de la messe au cours duquel se renouvelle le sacrifice. Le sacrifice de la messe, le sacrifice du Christ, est donc offert en action de grâce pour tous les bienfaits reçus de Dieu. Ce que rappelle aussi la prière juste après la consécration de l'Unde et Memores. Le quatrième but de la messe est une fin propitiatoire, c'est-à-dire de nous rendre Dieu propice. Et cela est nécessaire depuis le péché originel. En effet, par le péché originel, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Et le péché est un obstacle à ce que Dieu entende notre prière. Le péché est à la fois une révolte contre Dieu, une injustice envers lui, parce que s'il nous a créés, nous devons tout lui rendre, tout lui appartient, et nous devons lui obéir. Mais c'est aussi une offense infinie à la divine majesté. Et pour que Dieu nous soit propice, puisse nous entendre, eh bien, il faut d'abord rétablir la paix avec Dieu. Et pour cela, réparer l'offense qui lui a été faite par le péché. Cet aspect propitiatoire de la messe apparaît très souvent. Déjà, tout d'abord, par les nombreuses confessions de nos péchés. Les deux confiteor, les prières au bas de l'autel. Le Kyrie, le Confiteor avant la communion, toutes les fois où on implore Dieu pour ses péchés. Cette fin propitiatoire est aussi le but du sacrifice, proprement dit, de l'offrande de la victime. On le voit notamment dans l'offertoire. La première prière de l'offertoire, Suscipe Sancte Pater, eh bien, est offerte pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre. Dans la deuxième prière qui suit, donc quand le prêtre verse l'eau dans le calice, eh bien il rappelle toute l'œuvre de la rédemption, Dieu qui nous a créés d'une manière admirable et qui nous a rachetés d'une manière plus admirable encore. Dans l'offrande du calice, l'offerimus tibi, eh bien on demande que cela soit fait, on parle du calice du salut. Donc on indique bien, dans la prière in spiritu militatis, eh bien, on a encore cette contrition et cette humilité. Dans l'Anquigitur, donc qui précède la consécration, eh bien, on demande d'être arraché de l'éternelle damnation, d'être aussi conservé dans la paix, donc préservé du péché. Dans la consécration du précieux sang, qui est versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés, dans le memento des morts, où Dieu, on demande à Dieu de remettre les peines des défunts, dans le nobis curae peccatoribus, à nous aussi pécheurs. Partout, eh bien, on voit que le but de ce sacrifice, c'est la remise de nos péchés et de nous rétablir dans l'amitié avec Dieu. Et c'est enfin l'effet de la communion. On le voit dans la conclusion du Pater. On le voit aussi dans la troisième prière que le prêtre récite avant de communier, dans l'Agnus Dei, demande Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, et dans la deuxième prière des ablutions, tout à la fin de la messe, où eh bien, on demande que le péché ne laisse aucune tache en moi. Donc tout cela montre bien que la messe est un sacrifice pour le péché, pour que l'offense du péché soit réparée en nous et que Dieu puisse, que nous puissions plaire à Dieu. Et cela est tout à fait normal, car si le Christ s'est incarné, c'est en vue de notre rédemption, en vue de réparer nos péchés. Le sacrifice de la croix, en effet, a satisfait pour les péchés de tous les hommes. Une satisfaction offerte à la justice divine. Le péché est en effet une offense infinie à la majesté divine, et il fallait une réparation infinie que seul Jésus-Christ pouvait offrir. Car comme Dieu, son sacrifice a une valeur infinie, et comme homme, il peut offrir cette réparation au nom de toute l'humanité, dont il est le chef. Ainsi, en mourant sur la croix, notre Seigneur a offert à son Père une réparation surabondante. La justice divine a été plus que satisfaite. Et pour désigner cette satisfaction offerte par Jésus-Christ, en notre nom à tous, on parlera de satisfaction vicaire. Et cet effet, je dirais, du sacrifice de la messe sur nos péchés se retrouvera dans la communion, où on s'unit à la victime. Car par la communion, nous rappelle le catéchisme de Saint-Pie-X, eh bien nous avons trois effets. Cela donc conserve et augmente en nous la vie de la grâce, cela nous remet nos péchés véniels et nous préserve des péchés mortels, et cela produit en nous la consolation spirituelle. Le quatrième but de la messe est une fin impétratoire, c'est-à-dire demander à Dieu les grâces dont nous avons besoin. Et on voit tout au long de la messe ces demandes qui sont faites. On demande souvent notre salut ou la grâce de parvenir au ciel. Dans le canon de la messe, on priera plus spécialement, on demandera plus spécialement pour l'Église. Donc c'est ce qui précède donc la consécration. On est maintenant des vivants. On demandera la rédemption de leurs âmes, la sécurité, le salut. Dans le communicantes, donc on invoque l'intercession des saints, on demande que Dieu, par l'intercession des saints, nous accorde le secours de sa force et de sa protection. Dans l'Anquisito, juste avant la consécration, on demande à Dieu qu'il dispose notre vie dans la paix, qu'il nous arrache à l'éternelle damnation, qu'il nous compte au nom de ses élus. Dans le Supplices Terogamus, donc après la consécration, nous demandons à Dieu d'être comblé de grâce et de bénédiction du ciel. Donc, et encore, tout à la fin de la messe, dans la prière Agré Trinité Sainte, Placet Tibi Sancta Trinitas, que le prêtre dit juste avant de donner la bénédiction. Et toutes les œuvres de la messe expriment ces demandes, que ce soit donc la collecte, la secrète ou la post-communion. Donc les quatre buts de la messe, tels qu'ils apparaissent dans les liturgies, sont l'adoration, l'action de grâce, l'aspect propitiatoire, satisfactoire, donc que Dieu nous soit à nouveau propice, et la fin de demande. Alors comment définir la messe maintenant? Eh bien la messe apparaît comme le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, offert sur l'autel sous les apparences du pain et du vin, en souvenir du sacrifice de la croix. Le prêtre pose les signes sacramentaux, le pain, le vin, les paroles de la consécration, et le Christ est présent dans un état de victime, avec son corps et son sang séparés. Les signes sont posés par le prêtre, mais c'est Jésus-Christ qui agit à travers le prêtre et qui réalise à nouveau l'offrande de son sacrifice. On parle ici de causalité instrumentale. Le prêtre est un peu comme un instrument entre les mains de Dieu, de notre Seigneur. De la même manière que quand j'écris quelque chose, ce qui est écrit, est-ce que c'est le crayon qui écrit ou est-ce que c'est moi? Les deux. le signe, les lettres, le signe matériel, c'est le crayon qui l'a mis. Mais l'aspect intelligent, intellectuel, raisonnable de l'écriture, ça vient de mon intelligence, de la personne qui écrit. Eh bien, d'une certaine manière, dans le sacrement, c'est un peu pareil. Les signes extérieurs, les paroles, la disposition de la matière, c'est l'homme qui le fait. Mais c'est Jésus-Christ qui agit et qui réalise vraiment le sacrifice et qui transforme, qui fait que le pain, là où il y avait du pain, il y a désormais le corps du Christ. Là où il y avait du vin, il y a désormais son sang. On retrouve ici la définition du sacrement, un signe sensible qui produit la grâce qu'il signifie. Et à la messe et au calvaire, c'est la même victime, Jésus-Christ qui s'offre à son prêtre, qui s'offre à son père, pardon. C'est aussi le même prêtre, le même Jésus-Christ qui est prêtre au calvaire et là. La différence, c'est qu'au calvaire, Jésus-Christ s'était offert directement. Là, il le fait par les mains du prêtre. Au calvaire, il s'était offert de manière sanglante pour mériter pour nos péchés. À la messe, il s'offre de manière sanglante pour nous appliquer les fruits de la passion. Voilà pourquoi il n'y a finalement qu'un seul sacrifice, celui de la croix. Et si le prêtre peut offrir eh bien, ce sacrifice, c'est en raison du sacrement de l'ordre qu'il a reçu. Il a reçu ce caractère, donc cette marque dans son âme, qui lui permet d'agir dans le domaine des sacrements, qui lui donne ce pouvoir. C'est donc le prêtre qui premièrement offre la messe, mais les fidèles s'unissent au prêtre. C'est ce que dit l'Orate Fratres, quand elle lui dit « Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé de Dieu. » Le centre de la messe, c'est finalement le Vendredi Saint, le sacrifice de la croix. La communion, le Jeudi Saint, n'est que la participation au sacrifice du Vendredi Saint. La priorité, c'est donc le Vendredi Saint dans la messe et l'application qui est un petit peu la scène, le Jeudi Saint. Et on verra que dans le Nouveau Rite, il y a une inversion. Ce qui est premier désormais, c'est la scène, le repas. Voyons maintenant la nouvelle messe. Rappelons rapidement l'enchaînement des rites. La messe commence, nous dit la présentation générale du nouveau missel, vous rappelez ce document qui explique la nouvelle messe, commence lorsque le peuple est rassemblé. C'est alors qu'a lieu les rites d'entrée, dont le but est que les fidèles se réunissent en réalisant une communion, donc les rites de préparation du début. Ces rites d'entrée, c'est d'abord le chant d'entrée, pendant que le prêtre entre, qui sert à favoriser l'union des fidèles entre eux. Le prêtre salue la communauté rassemblée, ce faisant, il manifeste à l'assemblée la présence du Seigneur. Et la réponse du peuple manifeste le mystère de l'Église rassemblée. Donc, il y a donc le mot d'accueil, puis la préparation pénitentielle qui est accomplie par toute la communauté ensemble, prêtre et fidèle. Le prêtre ici n'invoque plus le pardon de Dieu sur les fidèles par la prière de l'indulgentiam, il est mis au même niveau que les fidèles. C'est donc ce qu'on réalise, la présence du Christ au sein de l'assemblée. Il y a ensuite le Kyrie, où on acclame le Seigneur et on implore sa miséricorde, le Gloria, où l'Église, assemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père et l'agneau. Et cette expression utilisée par la présentation du nouveau missel met un peu de côté l'aspect de l'adoration due à la très sainte Trinité. Et en outre, cette expression n'est pas très juste. Ce n'est pas l'Église assemblée dans l'Esprit Saint qui glorifie Dieu le Père et l'agneau. C'est l'Église assemblée dans l'Esprit Saint qui glorifie Dieu le Père par l'agneau, par le Fils. Il y a ensuite la prière d'ouverture, l'équivalent de la collecte, où tous font silence pour prendre conscience qu'ils se trouvent en présence de Dieu, présence spirituelle du Christ au milieu de l'assemblée. Suit la liturgie de la parole avec trois lectures, une de l'Ancien Testament, une du Nouveau Testament, les Épîtres, et une de l'Évangile, avec des chants intercalaires. Et il est dit que Dieu adresse la parole à son peuple, que Dieu présente une nourriture spirituelle, on parlera de la table de la parole, le Christ lui-même est là présent par sa parole au milieu des fidèles, est-il dit. cette présence spirituelle du Christ dans la parole et dans l'assemblée. Les lectures étant des fonctions ministérielles et non présidentielles, elles reviennent au ministre, donc le servant, les lecteurs, homme ou femme. Une plus grande vénération est réservée à l'évangile qui doit être lu par un diacre ou un autre prêtre. Les fidèles, par leur acclamation, reconnaissent et professent que le Christ y est présent et leur parle. Donc présence du Christ dans l'évangile. L'homélie a été insérée dans la liturgie, elle en fait désormais partie, car elle est nécessaire, nous dit-on, pour nourrir la vie chrétienne. Suit la profession de foi où le peuple acquiesce et répond à la parole de Dieu. La prière universelle où le peuple exerce sa fonction sacerdotale, supplie pour tous les hommes, cette prière est dirigée par le prêtre. Il faut noter l'expression « fonction sacerdotale du peuple ». Quels sont les grands caractères de la liturgie de la parole ? Présence spirituelle du Christ dans les paroles et dans l'assemblée, le prêtre qui est président de l'assemblée et le peuple qui exerce une fonction sacerdotale. La deuxième partie, la liturgie eucharistique, est calquée sur le jeudi saint. Dans la préparation des dons, d'abord, ce qui remplace l'offertoire, on apporte le pain et le vin, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses mains. Dans la prière eucharistique, ce qu'on appelle le canon, on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre de salut et les dons offerts deviennent le corps et le sang du Christ. Dans la fraction du pain unique, se manifeste l'unité des fidèles, et par la communion, les fidèles reçoivent le corps et le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres l'ont reçu du Christ lui-même. Voyons la présentation des dons. Tout d'abord, on apporte le pain et le vin, qui sont offerts par les fidèles. Il est prévu même, si on peut le faire, d'organiser une procession avec tous les fidèles ou quelques fidèles pour apporter les dons, le pain et le vin. Et pendant ce temps-là, on chante le psaume d'offertoire. On offre le pain et le vin qui sont le fruit de la vigne, le fruit de la terre ou fruit de la vigne et du travail des hommes. Ce sont donc les dons de l'assemblée qui sont présentés à Dieu. Et on demande à Dieu d'accueillir ce sacrifice. La prière in spiritu militatis, donc humble et pauvre, nous vous demandons, c'est le même texte, hein, mais la traduction est un peu libre. Ensuite, le prêtre se lave les mains. Dans l'orate fratres, on demande que ce sacrifice soit agréé de Dieu. Ce qu'on offre ici, eh bien, c'est le sacrifice que l'Assemblée fait par ses offrandes. Offrandes, donc, qui sont le pain et le vin, mais qui peuvent être aussi d'autres choses, offrandes en argent. Donc, voilà le sacrifice, c'est donc que l'on fait pour l'Église et pour les pauvres. Viennent les prières eucharistiques, donc le canon de la messe, qui sont nombreuses. Il y en a 4 prévues dans la messe de 69, 10 pour les langues françaises officielles et une infinité car chacun invente la sienne. Il s'agit d'une prière d'action de grâce et de consécration. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. Donc c'est action de grâce et confession des hauts faits de Dieu. La préface, prière d'action de grâce, une acclamation, Sanctus, l'épiclèse. L'Église invoque la puissance divine pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang, et pour que la victime sans tache, qui sera reçue dans la communion, profite au salut de ceux qui vont y participer. Donc, on invoque la puissance divine pour que que les dons offerts par les hommes deviennent le corps et le sang du Christ. Suit le récit de l'institution, c'est le numéro 55D. Il y a 2 versions, donc une version de 69 du texte et une version de 70 pour la présentation générale de Louis Michel et une version de 1970 qui a été un peu corrigée des passages les plus scandaleux. Pour moi, je m'arrêterai à la version de 69 puisque c'est à partir d'elle qu'a été faite la nouvelle messe et le rite en lui-même n'a pas été changé. Donc, il est dit, le récit de l'institution, par les paroles et les actions du Christ, est représenté la dernière scène où le Christ lui-même institua le sacrement de sa passion et de sa résurrection, lorsqu'il donna à ses apôtres sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang à manger et à boire, et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. Donc, on représente la dernière scène du Christ, où le Christ a institué le sacrement de sa passion et de sa résurrection, et où il a donné son corps et son sang à manger et à boire. Donc, c'est en fait une représentation, une mémoire que l'on fait. Mais est-ce que à la messe, quand on prononce les paroles de la consécration, se réalise réellement cette transformation du pain au corps et au sang? Ça n'est pas dit. On dit simplement, cela s'est passé il y a 2000 ans, quand le Christ l'a fait lors de la dernière scène. Donc le texte est un peu ambigu. Le nouveau texte a été légèrement corrigé, simplement dans l'intitulé, on parlera désormais de récit de l'institution et la consécration. Mais pour le reste, c'est identique. Après le récit de l'institution vient l'anamnèse. Donc faites ceci en mémoire de moi. On fait mémoire du Christ en célébrant la passion, la résurrection et l'ascension. Suit l'offrande, au cœur de cette mémoire, l'Église rassemblée offre cette victime sans tache et s'offre eux-mêmes afin d'être consommés dans l'unité pour qu'à la fin, Dieu soit tout en tous. Par cette offrande se réalise la présence de Dieu dans l'assemblée. Et on voit donc que cet aspect de mémoire, finalement, est presque plus important que le récit d'institution ou la consécration. Suivent les intercessions, donc on célèbre cette Eucharistie pour toute l'Église, avec toute l'Église. Puis la doxologie finale, où on se contente d'affirmer que Dieu est glorifié par le Fils. Il n'y a plus cet aspect du Christ qui nous donne tous les biens. Les rites de communion. La célébration étant eucharistique et le banquet pascal, le corps et le sang du Christ sont reçus comme nourriture spirituelle. Vous noterez le terme très vague, nourriture spirituelle. L'oraison dominicale, on demande le pain quotidien, c'est-à-dire le corps du Christ, et la purification des péchés, pour que ce qui est saint soit donné aux saints. Donc, le rite de la paix, on implore la paix et l'unité pour l'Église et toute la famille humaine. Notez bien. Donc, ce n'est plus l'unité de l'Église, mais de toute la famille humaine. Les hommes s'expriment leur amour mutuel avant de participer au pain unique. Donc la paix ici ne descend pas de l'autel, c'est-à-dire du Christ, vers les hommes, mais ce sont les hommes qui font la paix entre eux, de façon à réaliser l'unité de toute la famille humaine. La fraction du pain, pendant laquelle on chante l'Agnus Dei, donc si cette fraction du pain dure longtemps, si on prend une très grande hostie, eh bien on la casse en beaucoup de petits morceaux pour que tout le monde puisse communier. À certaines dorées, le pape a concélébré et l'hostie de concélébration avait cette taille-là. C'est assez impressionnant. On voit les photos. Donc il y a l'immixtion, le prêtre met un fragment de l'hostie dans le calice, quelques prières de préparation du prêtre, puis il dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Seigneur je ne suis pas digne, etc. » Cela, les prêtres et les fidèles le font ensemble. Pour la communion, il est dit qu'il faut communier de préférence avec les hosties et le vin consacré à la messe elle-même, afin qu'apparaisse mieux la participation au sacrifice actuellement célébré. Le chant de communion exprime l'union spirituelle entre les communions, donc toujours cette union entre les fidèles, qui est mise en avant plutôt que l'aspect de l'union des fidèles au Christ présent sous les apparences de l'hostie. Et enfin, prière après la communion. Rite de conclusion, salut et bénédiction du prêtre et renvoi des fidèles. Alors, maintenant, essayons de définir la messe à partir de ce que nous avons vu là. Quels sont les buts de cette messe? Tout d'abord, un but eucharistique d'action de grâce, qui apparaît très nettement et partout. D'ailleurs, on parlera désormais d'eucharistie. On ne parlera plus de sacrifice, mais d'eucharistie, voire de sacrifice eucharistique. Et cet aspect d'action de grâce est très net dans la prière eucharistique numéro 4, le canon numéro 4, où on fait le rappel de tous les bienfaits de Dieu, de toute l'œuvre de cette rédemption depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Et parmi les motifs de rendre grâce, il y a notamment, on rend grâce notamment en faisant mémoire de ce qui a eu lieu il y a 2000 ans, ce qu'a fait le Christ il y a 2000 ans lors de la scène. Le second but de cette messe, c'est de réaliser la présence du Christ dans l'assemblée, par les lectures qui rendent Dieu présent par sa parole, par l'union des fidèles entre eux, en constituant l'assemblée, par les rites d'entrée, par la communion à un même pain, qui réunit tous les fidèles entre eux dans le Christ. L'aspect essentiel ici, c'est l'union entre les membres, entre tous les hommes. Enfin, c'est le mémorial du Seigneur. On fait mémoire des hauts faits de Dieu, et cette mémoire le rend présent. Alors, comment définir la nouvelle messe? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre l'article 7, donc qui lui a été fortement modifié, parce que dans sa première version, il est vraiment scandaleux. Mais au moins, il révèle ce qu'est la nouvelle messe. La scène du Seigneur, autrement dit la messe, est une synaxe sacrée, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi le rassemblement local de la Sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ. Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors reprenons chacun des éléments. La messe est d'abord un repas, c'est la scène du Seigneur. On y renouvelle ce qui s'est passé le soir du jeudi saint. Et on voit cela à de très nombreux éléments. On parlera donc c'est le numéro 48 qui explique ce qu'est la messe. La dernière scène où le Christ institua le mémorial de sa mort et de sa résurrection est sans cesse rendue présente dans l'Église, lorsque le prêtre, etc. Donc c'est là où on définit la liturgie eucharistique, donc la deuxième partie de la messe, donc qui va d'offertoire jusqu'à la fin. Et donc, on définit par rapport à la dernière scène, et eh bien le prêtre fera chacun des gestes du Christ. Donc, l'offertoire, prendre le pain et le vin, prière eucharistique, donc rendre grâce à Dieu, et fraction du pain, communion. Donc on refait ce qui s'est passé le jeudi saint. Puisque la célébration est le banquet pascal, c'est le numéro 56, on demande aussi de communier avec les hosties et le vin consacrés à cette messe. Pourquoi cela? Pour mieux mettre en valeur l'aspect du repas. Si on fait un repas, il vaut mieux prendre la nourriture fraîche plutôt que les restes qui sont, au réfrigérateur, dans le tabernacle. Ensuite, la communion sur les deux espèces qui est prévue, car elle met plus en lumière le signe du banquet eucharistique. C'est le numéro 240 qui dit cela. Donc, la messe est un repas. C'est ensuite un rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre. On a bien vu l'aspect, l'importance donnée à l'assemblée qui doit se constituer. La célébration commence quand le peuple est assemblé. Et par sa nature, la célébration de la messe a un caractère communautaire. C'est le numéro 14 qui le dit. Et cette assemblée est sous la présidence du prêtre. Le prêtre a deux fonctions. Quand il prie à deux titres. Soit comme président, les parties présidentielles qui sont dites à voix haute. Ces prières présidentielles sont dites par le prêtre qui préside l'assemblée, comme tenant la place du Christ en personne au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Et parfois le prêtre priera en son nom propre. Il le fait alors à voix basse ou en silence. La prière eucharistique, donc le canon pour nous, où se trouvent les paroles de la consécration, est donc une action présidentielle. Donc qui célèbre la messe, qui offre ce sacrifice, même la consécration, est-ce que ce n'est pas finalement toute l'assemblée? Pour la prière, donc on a vu aussi pour ce qu'on appelle la prière universelle, donc qui est juste avant le credo, donc où on prie pour toutes les intentions, donc un fidèle annonce une intention et tout le monde, Seigneur, nous te prions, eh bien on parle là de la fonction sacerdotale du prêtre. Et on comprend mieux maintenant comment on peut réaliser aujourd'hui ce qu'on appelle des ADAP ou des ADALs, pour prendre un terme plus récent. ADAP, c'est assemblée dominicale en l'absence de prêtre, mais c'est un peu négatif, donc on parlera désormais d'ADAL, assemblée dominicale animée par des laïcs. Donc on voit, l'Église est en mouvement, il y a un progrès. Et on comprend comment ça peut se réaliser, comment c'est concevable, puisque la messe est un rassemblement et un repas. Donc pendant ces ADAL, eh bien, diverses prières qui sont faites, et puis on distribue la communion. C'est un laïc qui le fait. Et, eh bien, le but de cela, de cette cérémonie, c'est célébrer le mémorial du Seigneur, c'est-à-dire refaire ce qu'a fait le Christ le jeudi saint. On fait mémoire, on refait cela ensemble, et en faisant cela, c'est le quatrième point, on réalise la présence du Christ, présence spirituelle. Le rassemblement local réalise de façon éminente la parole du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le numéro 7. Ou le numéro, dans les prières qui suivent la consécration, après le récit de l'institution, l'Église fait mémoire du Christ lui-même, et au cœur de cette mémoire, on offre la victime sans tache. La dernière scène où le Christ institua le mémorial de sa mort et de sa résurrection est sans cesse rendue présente dans l'Église, lorsque le prêtre, etc. Donc c'est là où on définit la liturgie eucharistique, donc la deuxième partie de la messe, donc qu'on va d'offertoire jusqu'à la fin. Et donc on définit par rapport à la dernière scène, et eh bien le prêtre fera chacun des gestes du Christ. Donc l'offertoire, prendre le pain et le vin, prière eucharistique, donc rendre grâce à Dieu, effraction du pain, communion. Donc c'est on refait ce qui se passait le jeudi saint. Puisque la célébration est le banquet pascal, c'est le numéro 56, on demande aussi de communier avec les hosties et le vin consacrés à cette messe. Pourquoi cela? Pour mieux mettre en valeur l'aspect du repas. Si on fait un repas, il vaut mieux prendre la nourriture fraîche plutôt que les restes qui sont, au réfrigérateur, dans le tabernacle. Ensuite, la communion sur les deux espèces, qui est prévue, car elle met plus en lumière le signe du banquet eucharistique. C'est le numéro 240 qui dit cela. Donc, la messe est un repas. C'est ensuite un rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre. On a bien vu l'aspect, l'importance donnée à l'assemblée qui doit se constituer. La célébration commence quand le peuple est assemblé. Et par sa nature, la célébration de la messe a un caractère communautaire. C'est le numéro 14 qui le dit. Et cette assemblée est sous la présidence du prêtre. Le prêtre a deux fonctions. Quand il prie à deux titres. Soit comme président, les parties présidentielles qui sont dites à voix haute. Ces prières présidentielles sont dites par le prêtre qui préside l'assemblée, comme tenant la place du Christ en personne au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Et parfois le prêtre priera en son nom propre. Il le fait alors à voix basse ou en silence. La prière eucharistique, donc le canon pour nous, où se trouvent les paroles de la consécration, est donc une action présidentielle. Donc qui célèbre la messe, qui offre ce sacrifice, même la consécration, est-ce que ce n'est pas finalement toute l'assemblée? Pour la prière, oui. Donc, on a vu aussi pour ce qu'on appelle la prière universelle, donc qui est juste avant le credo, donc où on prie pour toutes les intentions, donc un fidèle annonce une intention et tout le monde, Seigneur, nous te prions. Eh bien, on parle là de la fonction sacerdotale du prêtre. Et on comprend mieux maintenant comment on peut réaliser aujourd'hui ce qu'on appelle des ADAP ou des ADAL, pour prendre un terme plus récent. ADAP, c'est assemblée dominicale en l'absence de prêtre, mais c'est un peu négatif, donc on parlera désormais d'ADAL. Assemblée dominicale animée par des laïcs. Donc on voit l'Église est en mouvement, il y a un progrès. Bon. Et on comprend comment ça peut se réaliser, comment c'est concevable, puisque la messe est un rassemblement et un repas. Donc pendant ces adales, eh bien, on diverses prières qui sont faites, et puis on distribue la communion. C'est un laïc qui le fait. Et eh bien, le but de cela, de cette cérémonie, c'est célébrer le mémorial du Seigneur, c'est-à-dire refaire ce qu'a fait le Christ le jeudi saint. On fait mémoire, on refait cela ensemble, et en faisant cela, c'est le quatrième point, on réalise la présence du Christ, présence spirituelle. Le rassemblement local réalise de façon éminente la parole du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le numéro 7. Ou le numéro, dans les prières qui suivent la consécration, après le récit de l'institution, l'Église fait mémoire du Christ lui-même, et au cœur de cette mémoire, on offre la victime sans tache. Donc la présence du Christ semble être au cœur de la mémoire. Si le Christ est présent là, c'est parce qu'on fait mémoire de lui. Et cette présence du Christ semble être bien plus dans l'assemblée que dans les saintes espèces. Et cette présence du Christ atteint son plus haut point dans la mendication d'un même pain eucharistique. c'est ce chant que vous avez peut-être déjà entendu lors de ces messes. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. Eh bien, ça signifie bien ce que cela veut dire. La messe nouvelle est donc un repas où se rassemblent les fidèles sous la présidence du prêtre afin de faire mémoire du Sauveur et de réaliser ainsi sa présence dans l'assemblée. On mesure l'écart qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle messe. On est passé du renouvellement du sacrifice de la croix à un repas mémorial où on se souvient du Christ. On est passé de la présence réelle, clairement affirmée, à une présence spirituelle dans l'assemblée, dans la parole, présence assez diffuse. Et tout cela, on le tire du nouveau missel et de la présentation générale du missel romain. Alors on verra ensuite, eh bien, quelle est la valeur de cette messe. Est-ce qu'elle est totalement invalide ou pas? Mais on peut déjà dire là qu'il y a de très graves lacunes. Certes, il faut reconnaître, la messe est une assemblée. C'est vrai. La messe est un repas. On y reçoit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mémorial. On se souvient de ce qui s'est passé. Cela est vrai. Et c'est vrai aussi que le Christ est présent chaque fois qu'on prie ensemble. Dans toutes ces propositions, tout est vrai. Mais on oublie de dire quand même un certain nombre de vérités. La messe est bien plus que cela. Et c'est peut-être là qu'on peut reprocher à la nouvelle messe, ce qu'on reproche à la nouvelle messe. Ce n'est pas tant ce qu'elle dit que ce qu'elle ne dit pas. Quoique dans ce qu'elle dit, il y a souvent des ambiguïtés. Alors, eh bien, quelles sont ces lacunes de ce nouveau rite concernant les buts de la messe? Tout d'abord, la fin d'adoration. Eh bien, l'adoration de la Trinité a grandement disparu. À l'offertoire, il n'y a plus la prière du Suscipe Sancta Trinitas. Donc, on ne prie plus pour la Trinité. À la préface de la Sainte Trinité n'est plus utilisée qu'une fois par an, alors qu'avant, elle était dite tous les dimanches, sauf au temps liturgique particulier. Et à la fin de la messe, on ne dit plus le Placeat Tibi Sancta Trinitas. Donc, que ce sacrifice vous plaise, Trinité Sainte. La finalité eucharistique d'action de grâce, elle, a été très fortement développée et mise en avant. Alors que cet aspect-là, dans la messe traditionnelle, était présent, mais de manière assez limitée. C'était celle qui était le moins souvent apparue. Concernant la fin d'adoration, il faut aussi noter que désormais, on ne demande plus que notre sacrifice plaise à Dieu, soit agréé de Dieu. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que depuis le péché originel, nos sacrifices personnels n'avaient plus de valeur. Le seul qui était agréable à Dieu est celui du Christ. Et par notre rédemption, nous pouvons à nouveau être agréables à Dieu en Jésus-Christ. Mais dans la nouvelle messe, ce sacrifice, on l'a vu, consiste dans une sorte d'échange. L'homme apporte le pain et le vin, et Dieu change l'échange en pain de vie et en boisson spirituelle. Ce sont les termes employés dans le nouveau rite. Des expressions qui n'indiquent rien de précis. Donc, au sacrifice du Christ, on a substitué le sacrifice de l'homme, qui offre, eh bien, de ses richesses temporelles. Richesses temporelles qui sont sanctifiées par Dieu. Donc, l'aspect sacrifice d'adoration, qui doit être agréé de Dieu, ici, diminue la fin d'adoration de la messe. La fin propitiatoire, donc que Dieu nous soit propice et nous remette nos péchés. On a vu qu'elle avait une place essentielle dans le rite traditionnel. On la trouve partout, du début jusqu'à la fin. Cette demande de libération du péché et de retrouver la paix avec Dieu. Et même dans la nouvelle messe, cela a quasiment disparu. Il n'y a plus de prière au bas de l'autel, plus de confession des péchés, où la préparation pénitentielle peut se limiter à quasiment rien. Si on regarde ici, selon les versions, ça peut être simplement « Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. » Ou alors, encore moins, la troisième version qui remplace aussi le Kyrie. Donc, demande de pardon des péchés qui disparaît. À l'offertoire, on a supprimé la prière « Deus qui manus tonsie », donc qui rappelait toute l'œuvre de la rédemption. Cette restauration plus admirable encore. La prière du Suscipe Sancte Pater a été supprimée, remplacée par fruit de la terre et du travail des hommes, où on demandait, eh bien, cette rémission de nos péchés. Ainsi, à la fin de la messe, la deuxième oblation, où on demandait d'être purifié de nos péchés, cela est supprimé. Suppression, enfin, de toutes les prières où on demande à Dieu d'agréer le sacrifice malgré notre indignité. Désormais, on dira directement, Seigneur, nous t'offrons. Donc, d'office, nous sommes, j'irai de plein pied avec Dieu, nous lui sommes agréables. Quelles sont, enfin, la fin impétratoire, donc les demandes faites à Dieu? Cela a été conservé et on lui a donné une place particulière dans la prière universelle. Donc, après cet changement dans les fins de la messe, eh bien, le deuxième élément, c'est la disparition du sacrifice de la croix qui apparaît dans cette nouvelle messe. Ce rapport de la messe et du sacrifice de la croix, s'il n'est pas nié, n'est plus jamais exprimé explicitement. Et cela apparaît dans de nombreux points. Tout d'abord, la prière eucharistique, donc le canon de la messe. Eh bien, cela consiste en ce que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ pour confesser les grandeurs de Dieu et offrir le sacrifice. Donc c'est une prière eucharistique d'action de grâce et de sanctification. Il reste donc l'action de grâce et la sanctification, c'est-à-dire les effets du sacrifice de la croix qui nous sanctifie et par lequel on rend grâce à Dieu en offrant ce sacrifice. Mais on ne parle plus que des effets. La cause a disparu, totalement effacée. Il y a aussi la disparition des signes de croix à la messe, notamment sur, vous voyez, sur le, il y en a un très grand nombre, et là, il n'y en a quasiment plus. Second élément qui diminue la présence du sacrifice de la croix, c'est la mise de côté de la présence réelle. Alors là, les témoignages sont innombrables. La présence réelle du Christ dans les saintes espèces n'est mentionnée qu'une seule fois, dans la présentation générale du nouveau missel. C'est au numéro 241 où l'on traite de la manière de communier sur les deux espèces. Vous voyez, c'est un aspect très, très restreint. Et encore, eh bien, on voit là la présence réelle comme une nourriture. À aucun endroit, la présence réelle du Christ, dans le pain ou sous l'apparence du pain ou du vin, n'est affirmée. On ne dira nulle part que le Christ est présent avec son corps, son âme et sa divinité. De même, le mot transsubstantiation a disparu. Totalement. On pourrait donc multiplier cela. Bon, plus proche, il y a la communion dans la main. Le prêtre qui ne se purifie plus, qui ne garde plus les doigts joints pour éviter tout contact profane après avoir touché les saintes espèces. On ne purifie plus les vases sacrés comme avant. On exprimait la pâle, la dorure. Si c'est un autel mobile, on n'a plus besoin de le consacrer ou d'avoir une pierre d'autel. Une seule lame d'autel au lieu de trois. L'action de grâce des fidèles, les gens restent assis pour l'action de grâce. Si une aussi tombe à terre, eh bien, simplement, on lui demandait de la ramasser avec révérence. Alors qu'avant, il fallait donc purifier tout cela. La communion qui peut être donnée par un simple servant de messe, un laïc. Donc tout cela marque le mot. Met de côté la présence réelle et diminue l'aspect du sacrifice de la croix renouvelée. L'autel principal, qui est souvent désigné comme table maintenant, donc idée de repas, alors que l'idée des autels, elle, indique bien l'idée d'un sacrifice, et en outre, l'autel est désormais séparé du tabernacle, c'est prévu, puisque eh bien, le tabernacle va être dans un endroit où les fidèles peuvent se recueillir. Ce qui fait qu'on sépare l'autel, le sacrifice, de la présence réelle. Dans les formules de consécration aussi, qui sont désormais présentées comme un récit, on ne distingue plus ce qui est sacramentel du récit, donc les paroles efficaces du récit. Les génuflexions, le prêtre commence par élever l'hostie avant de l'adorer, donc est-ce la foi des fidèles qui crée la présence réelle ou est-ce les paroles? Dans l'anamnèse, toutes les fois faites-le en mémoire de moi, eh bien l'ancienne formule insistait, chaque fois que vous ferez cela, donc que vous renouvellerez le sacrifice. La nouvelle formule, elle, eh bien insiste beaucoup plus sur l'aspect de la mémoire, faire ceci en mémoire. Pour les acclamations ensuite, eh bien nous attendons ta mort, nous proclamons ta mort et nous attendons ta venue, jusqu'à ce que tu viennes. C'est les acclamations après la consécration. Le Christ, normalement, est présent par la consécration et on dit « Nous attendons ta venue ». Cela est déjà assez ambigu. Et vous avez donc la deuxième formule, Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et là, la présence du Christ, c'est quand nous mangeons et quand nous buvons, dans la communion, et non plus dans les paroles de la consécration, dans le sacrifice lui-même. Donc là encore, eh bien, on voit ce changement. Alors maintenant, eh bien, un troisième problème dans cette nouvelle messe, c'est la place de chacun dans la célébration. Place du prêtre, place des fidèles et place de l'Église. La première place est désormais réservée aux fidèles, puisque la messe est le rassemblement du peuple de Dieu. Le Seigneur est présent dans l'assemblée. La messe a un caractère communautaire. Le peuple a un rôle sacerdotal. Et dans la prière eucharistique numéro 3, il est dit, en s'adressant à Dieu, « Ne cesse pas de rassembler ton peuple pour qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. » Donc c'est le peuple qui présente à Dieu l'offrande pure. Pour être juste, le texte latin est un peu moins mauvais, puisqu'il dit simplement « Ne cesse pas de rassembler ton peuple pour que partout soit offert. » Donc c'est plus ambigu. La traduction française, elle, indique bien que c'est le peuple qui offre la messe. Et le prêtre, en fait, est dit président. Donc il semble bien que le pouvoir sacerdotal appartienne au peuple et que le prêtre est uniquement là pour présider. Maintenant, quelle est la place du prêtre? Il est le président, le frère. Il est un parmi les autres. On voit ça dans le confiteor collectif. Lors de la communion des prêtres et des fidèles n'est plus distincte. Et pourtant, cette communion distincte avait une importance. Parce que le prêtre, agissant in persona Christi, il est donc celui qui offre, il est à la fois le prêtre, et il doit être aussi la victime. Par les paroles de la consécration, il agit en sacrificateur. Par la communion, il est la victime, il reçoit la victime. C'est pour ça que la communion du prêtre est exigée à la messe. Lui, sa communion est absolument nécessaire. Et par cela, on montre que dans la messe, il y a union entre le prêtre et la victime. C'est même Jésus-Christ qui est à la fois prêtre et victime. Et bien cela disparaît dans la nouvelle messe. En outre, rien n'indique plus le pouvoir du prêtre comme ministre du sacrifice. De même, à aucun endroit il est indiqué que la consécration lui revient en propre, du fait de son caractère sacerdotal et du sacrement de l'ordre qu'il a reçu. On ne dit pas que lui seul peut faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Il n'est plus qu'un président, rien de plus qu'un ministre protestant. Tout cela est encore renforcé par la disparition d'un certain nombre d'ornements. Bien souvent, maintenant, on se contente d'une aube et d'une étole. Alors, pour citer le père Roguet, liturgiste moderne, qui était à l'avant-garde à l'époque, bien, comment définir le prêtre? Simplement, un homme qui est un peu plus homme que les autres. C'est une très belle définition. Alors maintenant, donc, ce nouveau rite passe totalement sous silence la place et l'importance du sacerdoce dans l'Église et dans la célébration de la messe. Quelle est la place réservée à l'Église dans le nouveau rite? La messe, eh bien, dans la messe doit apparaître le lien qui unit le Christ et l'Église. Le Christ est l'épouse et l'époux de l'Église. Le Christ est la tête du corps mystique, le chef de l'Église. Quand on célèbre une messe sans peuple, donc sans le peuple, la messe est dite être l'action du Christ et de l'Église. Mais si on célèbre une messe avec peuple, il s'agit alors de faire mémoire du Christ et de sanctifier l'assistance. Donc dans cette expression-là, l'Église a totalement disparu. Il y a le peuple et le Christ. Il n'y a plus d'Église. Donc la messe n'est plus l'action du Christ et de l'Église, son corps mystique. On définit l'office du prêtre ainsi, le prêtre s'associe le peuple dans l'offrande du sacrifice à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Eh bien, donc, c'est faux, ce n'est pas le prêtre qui s'associe le peuple, c'est le prêtre qui associe le peuple à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'offre à son Père, en ayant uni à lui toute son Église, tous les fidèles. Donc on voit déjà là, l'Église, comme issue du Christ, est mise de côté. Et cette union des fidèles au Christ était demandée par la prière « Venez sanctificateur » qui a été supprimée, prière à l'Esprit Saint. C'est aussi la disparition du Père Christum Dominum Nostrum par le Christ Jésus notre Seigneur. qui est devenu facultatif ou qui a été supprimé en de nombreux endroits. Finalement, l'Église apparaît être réduite à l'Assemblée. L'Église, en outre, est maintenant dissoute dans l'humanité. Il n'y a plus d'Église, c'est finalement l'humanité. C'est déjà cette notion de royaume, on en parle à la conclusion du Pater, ce royaume qui est un royaume terrestre et en développement, qui se réalisera pleinement lors du retour du Christ à la fin du monde. Et une grande place est donnée à ce retour du Christ, on le voit dans les acclamations après la consécration. Et ce royaume semble être l'union de tous les hommes dans l'unité, donc rassemblement de toute l'humanité. Cette unité n'est plus fondée sur la foi. Dans la prière eucharistique numéro 4, on priera pour tous ceux qui, fidèles à la vraie doctrine, ont la garde de la foi catholique et apostolique. Ça, c'était la formule traditionnelle. Maintenant, on prie pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Donc, tous les hommes, finalement. De même, dans le Memento des morts, on priait pour ceux qui sont morts marqués du signe de la foi. Maintenant, eh bien, on parlera de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Ou, dans la prière eucharistique numéro 2, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Donc, voilà l'Église. C'est toute l'humanité. Il n'y a donc plus distinction entre membres de l'Église et tous les hommes et les autres hommes. L'Église devient ni plus ni moins que toute l'humanité. Et cet œcuménisme qu'on assiste aujourd'hui, eh bien, est déjà inscrit dans la Nouvelle Messe. Il y a ensuite la disparition du caractère apostolique de l'Église. Plusieurs fois dans la Messe, on nommait les saints apôtres Pierre et Paul, voire les douze apôtres. Eh bien, désormais, on ne trouve plus le nom ni de Pierre, ni de Paul, ni des apôtres au cours de la Messe. Sauf dans le canon prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain, parce que c'est le texte traditionnel inchangé. Bien, cela est une oblitération du caractère apostolique de l'Église et peut permettre bien l'œcuménisme avec des communautés, des églises, entre guillemets, pour prendre un terme moderne, qui ont perdu la succession apostolique. Il y a aussi l'affaiblissement de la communion des saints. La très sainte Vierge Marie et les saints ne sont plus nommés. Cela a été enlevé quasiment partout. Quand le prêtre célèbre seul, on supprime toutes les salutations, oubliant que la cour céleste, les saints, assistent à la messe et qu'on peut s'adresser à eux. Il y a ensuite la suppression des reliques dans l'autel, quand la messe est dite en dehors d'une église. Il y a enfin l'affaiblissement du Christ prêtre à la messe. La concélébration, en multipliant le nombre de célébrants, masque le fait que c'est l'unique Jésus-Christ qui offre la messe à travers le prêtre. Il y a maintenant une multitude de personnes qui le font. Traditionnellement, il est vrai, il y a une concélébration. C'est celle qui se fait lors de la messe d'ordination, où les nouveaux prêtres concélèbrent avec l'évêque. Mais là, cette concélébration indique bien l'unité du sacerdoce, qu'il y a un seul prêtre qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ne font qu'un en Jésus-Christ. Et puis maintenant, il y aura bien sûr le pluralisme liturgique, où chaque paroisse a son propre rite, et on pourrait même dire chaque dimanche a son propre rite, puisqu'il y a la commission liturgique, ou je ne sais pas quoi, enfin, où plusieurs laïcs se réunissent pour définir ce que sera la cérémonie, et dire au prêtre ensuite ce qu'ils ont décidé de faire. Et le prêtre n'a plus qu'à appliquer. Et ce pluralisme fait disparaître l'aspect du sacrifice du Christ unique et renouvelé. Il n'y a plus un seul sacrifice, il n'y en a qu'une multitude diverse. On vient de voir comment le nouveau rite nous conduit à l'ambiguïté et au doute. Et que il peut même être dangereux pour notre foi. Voyons d'abord quels sont quelques présupposés théologiques de cette nouvelle messe. Je m'ai inspiré très rapidement de ce livre-là. Le premier point qui est à la base de cette nouvelle messe, c'est une fausse notion du péché. Dans le péché, il y a plusieurs aspects. Il y a l'offense faite à Dieu, il y a un désordre en nous-mêmes, en tant que créature, on se révolte contre Dieu, c'est un désordre, et il y a aussi une injustice commise envers Dieu. La nouvelle théologie remet en cause l'aspect d'offense à Dieu. Il dit que le péché ne peut pas être une offense infinie à Dieu. Parce que Dieu est immuable, Dieu ne peut pas changer. si Dieu changeait, il ne serait plus Dieu. Donc le péché que nous faisons n'atteint pas Dieu. Et cela est vrai. Donc il n'y a pas d'offense infinie, donc pas nécessité de réparer cette offense infinie. Donc si le Christ est mort sur la croix, ce n'est pas pour réparer le péché, mais c'est pour donner un témoignage d'amour. Eh bien, là où il se trompe, c'est qu'il n'est pas nécessaire que l'offense soit reçue pour qu'il y ait offense. Prenons un exemple simple. Si une personne veut offenser l'autre en lui crachant au visage, le fait que le crachat n'atteigne pas le visage, est-ce qu'il n'y a pas pourtant une offense? Pourtant, la personne n'a pas été atteinte. Eh bien, c'est de même vis-à-vis de Dieu. Même si Dieu n'est pas atteint par le péché, n'est pas changé par le péché, il y a bien une offense infinie qui doit être réparée. Donc, si on nie cette offense infinie du péché, la rédemption et l'incarnation n'auront plus le même sens. Il ne s'agira plus de satisfaire à la justice divine, il s'agira désormais de prouver l'amour de Dieu, de renouveler l'invitation à l'alliance. Donc Dieu a voulu faire alliance avec les hommes ont rejeté cette alliance à plusieurs reprises, mais Dieu est fidèle et propose toujours de nouveau son alliance et demande que l'homme réponde à ses offres. Donc c'est de cette manière-là qu'agit la nouvelle théologie. Et en conséquence, l'aspect du sacrifice de la croix n'a plus d'importance. Ce qui est important désormais, c'est l'incarnation, où le Christ s'unit à l'humanité. Donc en lui, toute l'humanité est sauvée. Et ce qui est important encore, c'est sa glorification, sa résurrection et son ascension. Car à travers lui, toute l'humanité sera glorifiée. Voilà pourquoi, quand on parlera encore donc, de la passion, on la reliera toujours à la résurrection. On parlera donc de cette expression mystère pascal. Il y a donc un décalage. Et on voit les conséquences dans la liturgie, puisqu'on ne renouvellera plus le sacrifice de la croix, mais on rendra simplement le Christ présent dans l'humanité. Ce Christ qui était rendu présent par son incarnation, on le rend présent par la célébration liturgique. D'où l'importance et l'insistance qu'on a mis sur la présence spirituelle du Christ. Et ce qui rend présent le Christ, c'est l'action de faire mémoire, c'est le mémorial. D'une certaine manière, on rejoue la scène. Ce qui s'est passé le jeudi saint, on le rejoue. Et le jeudi saint, le Christ était présent par cette action. Et bien, en rejouant cette action, le Christ est de nouveau présent parmi nous dans l'assemblée. L'essentiel n'est plus la consécration, mais le mémorial. Et cette présence du Christ dans les hommes permettra de réaliser l'union de tous les hommes entre eux. Alors, traditionnellement, on avait les signes sacramentels et l'action du Christ. Eh bien non, là c'est plutôt une présence du Christ totale, du Kyrios, à travers toute l'assemblée. Voilà donc quels sont quelques présupposés théologiques de la nouvelle messe. Alors quelle conduite tenir, quelle conclusion faire pour la validité de cette messe? Eh bien d'abord, cette messe est-elle valide? C'est-à-dire, est-ce que notre Seigneur est réellement présent sous les espèces du pain et du vin quand la messe est dite selon ce rite? On a vu que dans cette nouvelle messe, le sacrifice de la croix et la présence réelle ont été très fortement gommés. Cependant, pour qu'un sacrement soit valide, il y a trois conditions. Il faut que la matière, le pain et le vin, on y trouve dans la nouvelle messe. Il y a la forme, donc les paroles de la consécration, qui sont demeurées substantiellement les mêmes, même si on y a apporté des variantes. Donc il y a donc la forme, et il faut ensuite, chez celui qui donne le sacrement, l'intention de faire ce que fait l'Église. Et par son orientation générale, le nouveau rite donne une signification à la messe qui est contraire à la présence réelle ou au renouvellement du sacrifice de la croix. Ce qui fait qu'à force de célébrer ce nouveau rite, le prêtre risque de perdre la foi, de concevoir la messe comme un repas et non plus comme le sacrifice de la croix. Et si sa foi est atteinte de cette manière-là, il ne pourra plus avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Il faudra faire à ce moment-là un mémorial, un repas, et il y a là un risque d'invalidité. Surtout que dans le nouveau rite, l'intention n'est plus dans le rite. Dans le rite traditionnel, c'est très clair. Juste avant la consécration, il dit que ce pain qui deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ en faisant les signes de croix dessus. Donc l'intention du prêtre est imposée. Pour que le prêtre célèbre la messe de manière invalide, il faudrait qu'il dise « Je ne veux pas réaliser la présence réelle. Je ne veux pas, en faisant ces gestes, renouveler le sacrifice de la croix. » Parce que son intention serait contraire. Mais cela n'arrive pas. Alors que dans le nouveau rite, simplement, dès que la foi est décalée, il y a un grand risque d'invalidité de cette nouvelle messe. Donc on ne dit pas que cette messe est invalide, mais qu'elle est douteusement valide et qu'elle risque de devenir invalide. Alors est-ce que cette nouvelle messe est bonne? C'est la question de la licéité, après la validité. Eh bien, comme elle masque les vérités de la foi, comme elle diminue le respect dû à Dieu et aux saintes espèces, il faut dire que cette messe n'est pas bonne et qu'elle ne peut pas être agréable à Dieu. Et voilà pourquoi, eh bien, comme elle est mauvaise, on ne peut pas faire cet acte mauvais. Donc ni la célébrer, ni y assister. On ne peut pas dire que cette nouvelle messe est hérétique, car elle ne nie aucune vérité de foi, mais elle masque les vérités de foi, elle les cache. Donc elle est sapiens hérésime. Elle goûte l'hérésie, elle conduit à l'hérésie. Et nous avons donc ce devoir de la refuser. Pour illustrer cela, eh bien, ça serait un peu le cas de celui qui dirait que Jésus-Christ est homme, pleinement homme, mais qui ne dirait rien de plus. Il dirait une chose vraie, mais en réalité, il cacherait l'essentiel, c'est que Jésus-Christ est Dieu aussi. Et celui qui dirait cela induirait gravement en erreur ceux qui l'écoutent. Eh bien, c'est ce qui se réalise dans la nouvelle messe, qui fait perdre la foi aux fidèles, et on le voit bien, malheureusement, ceux qui y assistent de manière régulière perdre la foi. Alors pratiquement, peut-on assister à la nouvelle messe? Si on ne peut pas avoir une messe traditionnelle, qu'est-ce qui vaut mieux? Ne pas assister à la messe ou aller à la nouvelle messe? De manière occasionnelle, il vaut mieux rester chez soi, prier, ou alors aller dans une église en dehors d'un office pour sanctifier le dimanche, plutôt que d'assister à cela. Bon, il y a eu le cas, notamment dans les années 75, Monseigneur en parle dans ses conférences spirituelles, des séminaristes, notamment italiens ou espagnols, où on ne trouvait aucune messe traditionnelle, aucune vraie messe dans leur pays. Pendant les vacances, que devaient-ils faire? Aller à la nouvelle messe ou ne jamais aller à la messe? Et de même pour leurs parents, que fallait-il qu'ils fassent? Monseigneur disait, dans ce cas-là, surtout qu'il y a encore de vieux prêtres qui célèbrent bien l'ancienne messe, en prenant le canon romain, le prix eucharistique numéro 1, en voulant faire ce que fait l'Église, entreprendre une nourriture, vous connaissez cet exemple-là, un peu avarié, et ne jamais se nourrir, il vaut mieux à la limite prendre une nourriture un peu avariée et survivre. Mais il dit, peut-être que ce que je dis maintenant ne sera plus valable demain, parce que de par ce rite, cette messe va être célébrée mal partout, ou plutôt bien, selon son esprit propre, et elle risque de ne plus être valide, ou de ne plus plaire à Dieu. Et à ce moment-là, on ne pourra plus y assister. Donc il dit, peut-être que dans l'avenir, on ne pourra plus y assister. Et c'est sans doute ce qui est arrivé aujourd'hui. Et il pensait bien que la nouvelle messe célébrée traditionnellement, si on peut parler ainsi, allait disparaître. Ce problème des enterrements, des mariages, des communions, etc., où on est invité, pour des raisons sociales, on est tenu d'être présent. Que faire? Ce nouveau rite étant mauvais, on ne peut pas y participer activement. On peut être présent, y assister passivement. Donc on ne répond pas aux prières, on peut lire son chapelet, on peut lire sa messe dans son missel, si on y arrive, ce n'est pas facile. Et donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Merci bien.